Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de l'environnement, les grands enjeux de la planète et de nos sociétés, avec toujours deux temps dans notre émission, des regards croisés, des idées partagées, des recherches menées sur un sujet particulier, et puis dans un second temps, des retours d'expérience, des histoires de terrain à partager, du côté de chez nous ou au bout du monde. Aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de la COP22 qui va se tenir cette année à Marrakech du 7 au 18 novembre, nous posons la question de la justice climatique face à la destruction de la planète. L'homme vit aujourd'hui une période qu'il a lui-même enfantée, l'Anthropocène, avec toutes les transformations et les destructions qui en découlent. Mais face à cette mutation de notre environnement, des voix s'élèvent pour réclamer un droit pour la Terre. Une législation qui prenne en compte l'écocide, c'est-à-dire la destruction de la maison-terre. Faut-il punir ceux qui continuent de détruire l'environnement et qui, de fait, accentuent les injustices et les tensions géopolitiques? Comment agir et faire reconnaître l'écocide comme le cinquième crime international? Le droit au secours de la Terre, c'est le thème de notre première partie d'émission aujourd'hui avec Valérie Cabanès, juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme, porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth depuis 2013 et auteure du livre Un nouveau droit pour la Terre, paru aux éditions Du Seuil. Et avec nous en studio, Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, co-auteur d'un avis rendu sur la justice climatique au Conseil économique, social et environnemental, et préfacier notamment du livre « Justice climatique », un livre paru aux éditions Bruylant. Et en seconde partie d'émission, vers 16h45, dans les Échos de la Terre, nous inaugurerons notre partenariat avec le service Planète et Sciences du journal Le Monde, dont les contenus sont à retrouver chaque jour dans le quotidien et sur le site du journal, et également dorénavant sur le site de l'émission. Et pour cette première, eh bien, nous avons choisi de faire un retour sur un dossier inédit publié la semaine dernière et qui a suscité des surprises et des réactions. Dossier intitulé « Cancer, les chiffres qui inquiètent ». Avec nous pour en parler, deux des trois journalistes auteurs de cette enquête, Sandrine Cabu, des pages Sciences et Médecine, et puis Gary Dagorne, du service des décodeurs. Santé, environnement et avenir de la planète, c'est le thème du jour.
Si on introduit le crime d'écocide, comme je le propose, à ce moment-là, les individus deviennent responsables, peuvent être poursuivis et punis. Et il y aurait donc un nouveau crime, ce qui serait ni le génocide, ni le crime contre l'humanité, ni le crime de guerre, qui serait le crime d'écocide.
Bonjour Valérie Cabanès.
Bonjour.
Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette émission spécifique sur l'écocide, cette justice climatique, en tout cas ce droit pour la Terre, on va en parler aujourd'hui. Alors ce terme écocide, d'ailleurs, il a été formulé quand finalement? On entendait à l'instant l'extrait d'un avoinu consacré à Mario Bettati, professeur émérite et doyen honoraire de Paris 2. Il était interviewé par Marc Semaux, c'était le 4 janvier 2013, et il parlait effectivement de cet écocide.
Alors c'est ancien, ça fait exactement 50 ans aujourd'hui que ce terme a été utilisé. Il a été utilisé en fait par un biologiste en 1966, au moment de l'usage de l'agent orange par l'armée américaine sur les forêts du Vietnam. Ce biologiste avait contribué pendant sa thèse en 42-43 à travailler sur les herbicides et s'est rendu compte de ce qui était fait du fruit de ses recherches et donc a été absolument scandalisé. Il a été repris ensuite en 72 à l'ouverture de la conférence de Stockholm, le premier sommet de la Terre, par le premier ministre suédois, Olaf Palme, qui a qualifié justement donc, la guerre du Vietnam de crime d'écocide. Et il est en discussion depuis dans les juridictions internationales. Et de façon générale par les juristes.
Donc depuis, vous dites, même avant 72, hein, avant Stockholm. Hein,
oui, 66 en fait, la toute première fois.
Donc depuis 66.
Par Arthur Galston.
Eh oui. Et puis ensuite, on en a entendu parler à Rio, hein, au sommet de la planète en juin 92. La maison brûle, hein. Nous regardons ailleurs. Mais c'est vrai qu'on, à nouveau, on a parlé de cet écocide. On cherche à, en fait, à concilier un peu protection de la nature et développement, développement économique. Et puis en 1999, je crois, Kofi Annan aussi, oui. Ancien secrétaire général des Nations Unies, avait proposé un pacte aux entreprises, hein, prémisse du pacte de la responsabilité sociale et environnementale. Jean Jouzel, ce sujet qui croise aussi la justice climatique, hein, au cœur des préoccupations, finalement, au cœur des préoccupations de qui ? Des scientifiques, des chercheurs, des juristes et ou des hommes et femmes politiques ?
Oui, alors d'abord je peux préciser que je connais l'origine du mot écocide depuis la lecture du très beau livre de Valérie, donc qui raconte effectivement ces 50 années d'écocide. Pour ce qui me concerne, c'est beaucoup plus récent. Moi, j'ai été familier avec ce terme à travers un ouvrage, disons, de Christophe Bonneuil, auquel nous avons d'ailleurs, je crois, collaboré l'un et l'autre, effectivement. Et bien, c'est cette idée quand même que nous allons dans le mur. Nous allons dans le mur pour beaucoup de raisons en termes environnementaux que le livre de Valérie balaye de façon très large et je dirais très complète. Pour ce qui me concerne, je m'intéresse plus directement, bien sûr, aux aspects liés au réchauffement climatique et à chaque fois que l'on montre les conséquences du réchauffement climatique dans un monde à plus 4, plus 5 degrés, disons, dans cette hypothèse où rien ne serait fait pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, tous les voyants sont au rouge, que l'on regarde, quelles que soient les conséquences, y compris, bien sûr, on peut parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, de problèmes de santé, d'environnement. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que, bien sûr, il y a des problèmes environnementaux qui le sont par eux-mêmes, la perte de biodiversité, la pollution, les ressources en eau, mais en gros, le réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, eh bien, exacerbe tous ces problèmes environnementaux. La perte de biodiversité, par exemple, je montre très souvent l'exemple de faune, de flore, 8 catégories, pour la moitié de ces catégories, eh bien, leur vitesse de déplacement, dans cette hypothèse d'un réchauffement climatique, disons, non maîtrisé, est largement inférieur à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de possibilité ou très peu de possibilité d'adaptation pour ces effets. Et c'est un écocide au sens que la nature serait très affectée. Nous en sommes très solidaires, évidemment. C'est ce que dit aussi l'ouvrage. Il y a cette solidarité entre la nature et l'humanité qui est quelque chose de très fort.
Et oui, repenser notre rapport à la nature, on va en parler dans un instant. En tout cas, Jean Jouzel, vous évoquez effectivement cette disparition aussi d'une partie de la biodiversité. Ça nous fait penser forcément à ce rapport de WWF qui est sorti il y a quelques jours, voilà. Et qui effectivement pointe du doigt le fait qu'en 40 ans, il y a presque 50% des vertébrés qui ont disparu sur la planète.
Et je pense que beaucoup de spécialistes de la biodiversité envisagent cette notion de sixième extinction, même en dehors de la possibilité d'un changement climatique, si vous voulez. Donc, généralement, les spécialistes de biodiversité ne prêtent pas forcément attention à ce risque supplémentaire causé par un réchauffement climatique vis-à-vis de la perte de biodiversité. Et donc, souvent, on parle de sixième extinction sans même évoquer ce problème qui, évidemment, ajoutera une difficulté très forte à toute la biodiversité.
Alors Valérie Cabanès, cette nature, donc il nous faut d'abord penser notre rapport à elle, hein, c'est-à-dire que l'homme aujourd'hui puise allègrement dans ses ressources comme dans un stock infini, sans prendre la mesure du danger. Mais vous dites, elle est la matrice qui nous permet en tant qu'espèce de rester en vie. Donc c'est d'abord aussi ce changement de position par rapport à la nature.
Oui, alors il y a effectivement un changement à opérer à l'intérieur de nous-mêmes, surtout dans les sociétés occidentales. À savoir, effectivement, reconnaître cette interdépendance que nous avons avec le vivant, le fait que nous en dépendons, que nous ne pouvons pas nous considérer comme des maîtres, tels que, finalement, la Genèse nous l'a proposé à une époque. Je pense que ce qui est important de voir, c'est toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'humanité et sur le reste du vivant et la manière dont justement tout se joue, tout se lie, ce que Jean vient d'expliquer sur la biodiversité et les relations qu'il y a avec le changement climatique, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le livre et qui est aussi très bien expliqué à travers la théorie des limites planétaires. Le Stockholm Resilience Center a proposé en 2009 de regarder scientifiquement quels étaient les seuils planétaires au-delà desquels l'état planétaire était suffisamment bouleversé pour que ça mette en péril finalement les conditions d'existence des êtres vivants et des humains, et surtout leur capacité à s'adapter soit extrêmement réduite. Et en fait, la problématique climatique et la problématique liée à la biodiversité, mais aussi l'acidification de l'océan, la pollution des sols, et la concentration de phosphore et d'azote, les rejets écotoxiques que l'on propulse dans l'environnement, s'entraînent les uns les autres. Et c'est ça qu'il faut vraiment saisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Quand on parle souvent des problématiques environnementales, on s'intéresse à un sujet, on devient spécialiste sur un sujet et on en oublie tous les autres. Et quand on commence à regarder, quand on essaie de sortir de ce déni, et quand on commence à regarder cette situation globale et la manière dont, effectivement, le changement climatique va avoir un impact sur l'océan, parce que l'océan est une pompe à carbone, qu'il a déjà puisé un quart du CO2 en excès depuis 200 ans et qu'il commence à saturer, et donc il s'acidifie, ce qui perturbe toute la faune marine. Quand on regarde effectivement les migrations des espèces qui vont être provoquées par le réchauffement climatique, et puis quand on voit tout simplement sur les humains les conséquences géopolitiques que cela va avoir, à partir du moment où vous avez parlé des migrants tout à l'heure, je crois que c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'on est sur des chiffres qui sont absolument effrayants. On s'attend à 60 millions de réfugiés environnementaux ou climatiques en Afrique subsaharienne d'ici 2020, c'est dans 4 ans. On sait depuis quelques jours qu'il y a une désertification en cours véritablement donc sur tout le Maghreb. On a aujourd'hui 40 millions de personnes qui sont en souffrance en Afrique australe depuis le début 2016 et personne effectivement ne l'évoque. Et on s'attend au moins à 250 millions de réfugiés climatiques et environnementaux d'ici 2050 selon les chiffres de l'ONU. Que va-t-on faire de ces personnes? Comment allons-nous gérer cette situation? C'est pour ça que le crime d'écocide, nous demandons à ce que ce soit un crime reconnu comme un crime contre la paix.
Alors, puisque vous parlez de ces déplacés du climat, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'émission « Et pourtant, elle tourne » du 14 décembre 2007, direction l'îlot de Carteret, près de la Papouasie, un atoll coupé en deux par la montée des eaux. Et donc, nous écoutons le témoignage d'Ursula Rakova, une de ces victimes, justement, du réchauffement climatique.
Nous avons perdu nos cultures de taro parce que l'île a été inondée, parce que l'eau saumâtre a envahi la terre et nous empêche de cultiver. Maintenant, on se nourrit essentiellement de poissons et de noix de coco et le gouvernement nous approvisionne en riz. C'est très différent de ce que j'ai connu dans mon enfance. C'est une situation extrême. La mer continue de grignoter l'atoll, qui devient de plus en plus petit alors que la population s'accroît. Nous n'avons pas d'électricité sur l'île, pas de voiture. Nous émettons 0,1% de gaz à effet de serre. Et nous sommes victimes des nations industrialisées. Nous allons devenir les premiers réfugiés climatiques du monde.
Jean Jouzel, quand on voit les chiffres aussi qu'on trouve dans le livre de Valérie Cabanès, entre 150 et 250 millions, pour l'instant c'est des estimations, mais c'est déjà énorme le nombre de personnes qui n'auront pas d'autre choix que de quitter leur lieu de vie d'ici 2050. Dans 15 ans au Bangladesh, 20 millions de personnes seront des déplacés du climat. Et puis il ne faut pas oublier que ce changement climatique augmente aussi forcément le risque de conflits, de tensions.
Oui, c'est un réchauffement climatique et... Pour ces régions, on va parler des petites îles ou bien des, en fait, toutes les régions limitrophes, toutes les régions côtières de l'océan Indien, d'une partie de l'océan Pacifique, est vraiment très vulnérable. Et d'ailleurs, ce sont largement ces pays qui se sont, disons, coalisés, en tout cas, qui se battent pour que l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré, et non pas simplement en deçà de 2 degrés, soit mis sur la table. Alors, pourquoi ils ont tout à fait raison? Ils ont vraiment, les arguments sont là. Le premier argument, c'est celui dont on vient de parler, l'élévation du niveau de la mer. Elle est plus importante dans ces régions que la valeur moyenne, parce que le réchauffement est plus important. Il y a celui que Valérie vient d'évoquer. Ce sont des régions dont les ressources sont largement construites autour de l'océan, à la fois des ressources halieutiques, mais aussi des ressources touristiques, par exemple les récifs coralliens qui seront mis à mal. Donc ces régions sont effectivement très, très perplexes devant cette acidification de l'océan qui joue un rôle déjà et qui risque de jouer un rôle supplémentaire. Le troisième aspect, eh bien, c'est le risque, au moins pour certains des îles, ça dépend, mais d'intensification des cyclones. Donc ces régions sont vraiment, disons, plus vulnérables que d'autres et on comprend que, eh bien, qu'elles souhaitent que le réchauffement climatique soit encore plus au sérieux qu'il ne l'est actuellement et il ne l'est pas suffisamment. Il l'est dans les textes, mais il ne l'est malheureusement pas encore dans les décisions et dans l'action.
Est-ce que vous faites extrêmement bien, Valérie Cabanès, et de façon très utile, il faut le souligner dans votre livre, c'est justement de nous parler de ces atteintes. Jean Jouzel le disait tout à l'heure, beaucoup, il ne s'agit pas de parler d'une atteinte et puis d'oublier les autres. C'est un effet cocktail explosif, finalement, qui explique ce réchauffement climatique et du coup qui explique toutes ces conséquences dont on va parler et ensuite ce droit nécessaire pour la Terre. Je vous propose tout de suite de nous intéresser à une autre conséquence, c'est aussi l'effet des déforestations massives. On écoute la parole du leader des Guarani, peuple d'Amazonie du Brésil victime de la déforestation et venu en France en juillet 2015 pour lancer un appel au secours.
Nous sommes le peuple Guarani Kaiowa.
A palavra Kaiowa quer dizer povos da floresta.
Le mot Kaiowa veut dire peuple de la forêt.
Pessoas que vivem na floresta.
Des gens qui vivent dans la forêt.
E da floresta.
Et de la forêt.
Mas a nossa convivência com a floresta.
Mais notre vie avec la forêt.
E da floresta.
Et de la forêt.
Est de manière
respectueuse. Très respectueuse. Nous avons un grand respect
pour
nos rivières, pour notre environnement.
Porque ela que nos permite a sobrevivência.
Parce que c'est eux qui nous permettent notre survie.
Mas hoje,
mais aujourd'hui, nous mourons avec nos forêts. Ils sont en train d'abattre nos arbres.
Nous
empoisonnons nos rivières. Et nous jetons, nous, les Indiens, sur les bords des routes. Nous vivons dans une situation misérable. Nos enfants meurent de malnutrition, manque d'assistance médicale, alors que le gouvernement brésilien dit aux pays étrangers que tout va bien.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Valérie Cabanès, donc cette question de la déforestation massive, il faut rappeler que la surface de la Terre est couverte à 40% par des forêts. Et qu'il y a un vrai rôle du couvert forestier, que c'est une pompe à carbone très utile, mais l'élevage, l'agro-industrie et donc bien d'autres atteintes posent problème et mettent à mal donc ces populations, ces peuples. Il y a ces victimes de ces atteintes-là.
Oui, ce sont les victimes les plus directes, comme on parlait des victimes des îles de Carteret, mais nous en serons les prochaines, parce que effectivement, déforester, ça veut dire, d'une fois de plus, relâcher dans l'atmosphère encore plus de CO2 de différentes manières. D'une part, en brûlant les forêts sont des pompes à carbone, quand vous brûlez le bois, tout ce carbone repart dans l'atmosphère. D'autre part, ce sont des régulateurs climatiques. Le fait de déforester, comme cela se passe en ce moment au Brésil, et je connais très bien les Guarani, les Kayapo, je les accompagne depuis plusieurs années dans leur combat, est une véritable catastrophe parce que vous avez une baisse des précipitations, la forêt s'évapore, si vous voulez, et donc permet effectivement de produire des pluies qui sont en train de disparaître, ce qui veut dire que à moyen et long terme, l'Amazonie va petit à petit s'assécher. Et c'est un véritable poumon pour la Terre. Donc il est très très important de les préserver et là aussi nous avons dépassé une limite planétaire. Nous devions garder au moins 60% des forêts, ne pas cultiver plus de 15% des terres émergées. Nous avons fait bien pire. Le Brésil est un cas absolument terrifiant puisque aujourd'hui la forêt est coupée pour planter des champs en grande partie de soja et de canne à sucre, soja transgénique. Soja qui va en fait servir à faire des tourteaux qui vont être ensuite exportés beaucoup en Europe pour notre propre bétail, qui va donc se nourrir de soja OGM transgénique qui sont par-dessus le marché, donc ce qu'on appelle Roundup Ready, c'est-à-dire qui sont capables effectivement de supporter de très grosses doses d'herbicides. Ce bétail va produire du CO2, mais il faut savoir que 80% du bœuf que nous consommons en France vient du Brésil ou d'Argentine. Ce bétail est envoyé dans la forêt. Avant d'être intégré à cette forêt, de nouveau la forêt est coupée pour pouvoir l'élever. Voilà, donc on a un double phénomène entre l'agriculture et l'élevage, qui est effectivement en train de détruire l'Amazonie, et qui se fait avec l'aide de mercenaires, d'hommes de main, par de grands propriétaires terriens, et qui menacent physiquement, à l'heure actuelle, les populations autochtones et menace aussi d'ailleurs les activistes environnementaux. Il y a actuellement malheureusement 2 militants environnementaux dans le monde qui sont tués chaque semaine, et la plupart d'entre eux c'est en Amérique du Sud.
Jean, je vous ai une réaction.
Oui, peut-être quelques chiffres, c'est quand même important. Sont chaque année, en termes de gaz carbonique, c'est près de 40 milliards de tonnes qui sont émises. 4 milliards sont liés à la déforestation. Malgré tout, la forêt globale absorbe toujours du CO2, mais c'est vrai que ce qu'il faudrait faire, c'est le contraire de ce qui est fait. C'est-à-dire qu'il faudrait reforester pour lutter contre le réchauffement climatique et non pas déforester. Donc, on peut voir dans le fait que la déforestation a diminué. Elle était le double il y a une vingtaine d'années. C'était plutôt 8 milliards de tonnes de CO2 chaque année. C'est un bon signe, mais c'est malheureusement aussi le signe que la forêt elle-même a diminué. Je veux dire qu'en valeur relative, ça n'a pas forcément diminué rapidement. Malheureusement, à un moment, il y aura dans les régions tropicales, il n'y aura plus rien à déforester, et ça ne sera pas un signe de victoire s'il n'y a plus de déforestation. Je veux dire par là que c'est quand même extrêmement... c'est important pour la perte, pour tous les aspects biodiversité, c'est important aussi pour les populations autochtones qui nous gardent effectivement, je crois, très près de la nature et dont on devrait mieux regarder les enseignements, justement, cette façon de gérer la forêt. Donc tout cela, c'est quand même quelque chose, et effectivement, le bétail, non seulement qui le remplace, c'est aussi émetteur de méthane qui contribue bien sûr de façon non négligeable aux émissions de gaz à effet de serre.
En vertu du droit international, qui est responsable des dégradations des conditions de vie sur Terre aujourd'hui ? Valérie Camanès.
En fait, si vous voulez, toute la problématique du droit international à l'heure actuelle, c'est que, et du droit en général, et c'est pas en soi un mal, simplement le droit s'est construit autour d'une valeur qui est très importante, qui est la valeur de la dignité humaine. C'est-à-dire que le droit s'est construit sur un principe anthropocentré, là aussi, donc, à l'image de notre philosophie, de notre spiritualité, en excluant finalement l'humain de son environnement, de la nature. Ensuite, il s'est aussi construit selon d'autres intérêts, qui sont d'une part, comment maintenir la paix entre les États, et puis comment réguler le commerce international, de façon à ce que chaque État ait un petit peu sa chance sur l'échiquier mondial. La problématique, c'est que, à force, effectivement, d'avoir construit ce droit selon une dynamique économique, elle a fini par oublier, d'une part, de protéger véritablement les peuples et les nations. Quand on parle de nation, je ne parle pas d'État, je parle de culture. Et puis, elle a effectivement pas pris en considération les impacts sur la nature.
Et les droits humains.
Et à partir de là, elle a oublié qu'en impactant la nature, elle attaquait, effectivement, elle laissait la porte ouverte à des atteintes aux droits humains. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience à faire qui ne peut pas passer que par le politique ou que par l'économique. La preuve en est, on parlait tout à l'heure de déforestation, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui ? Il est proposé, oui, on sait qu'il faut reforester, mais en fait... Dans des systèmes de compensation carbone, on va dire à des entreprises, vous avez le droit, effectivement, éventuellement même de vous accaparer des terres, vous avez le droit de couper les arbres, mais vous devez replanter. Et qu'est-ce qu'ils plantent ? Ils plantent, par exemple, effectivement, des rangées de palmiers à huile en Indonésie, qui ne sont même pas des arbres, il faut le savoir. Qui sont des plantes pérennes, mais qui ne sont pas des arbres.
Et qui n'ont donc pas la même fonction qu'une vraie forêt.
Qu'une vraie forêt. Et surtout, il n'y a aucune vie qui arrive, effectivement, autre, qui peut se développer autour, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de régénérescence de la biodiversité locale. Donc, on est encore une fois sur une boucle qui est qu'on ne peut pas régler un problème climatique sans prendre en considération la problématique liées à la biodiversité, par exemple. Et là, les décisions qui sont prises dans les accords, d'une part, ce ne sont pas des accords contraignants. Je rappelle quand même que l'accord de la COP21, un châle a été remplacé par un schuld par les Américains, c'est-à-dire que a été remplacé par nous devrions, ça change absolument la donne.
Oui, puis on signe des textes, mais il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect de l'accord.
Il n'y a pas de sanctions. Hein. Donc il n'y a pas aujourd'hui de responsable. Il n'y a pas de responsable. Le problème, effectivement, c'est que cette responsabilité se dilue, qu'elle repose sur nous tous et que les conséquences finiront par effectivement atteindre surtout les générations futures. Donc on doit se poser la question aujourd'hui d'une responsabilité et comment l'inscrire dans le droit au regard justement d'une nouvelle valeur qui serait l'écosystème Terre dont l'humain dépend, mais où on ne placerait pas seulement l'humain au centre de l'échiquier juridique.
Jean Jouzel, vous avez donc co-signé un rapport avis pour le Conseil économique, social et environnemental, donc co-écrit avec Agnès Michelot, chercheuse en droit de l'environnement à l'Université de La Rochelle, et donc remis fin septembre dernier. Par cette action que vous menez auprès quand même des instances dirigeantes, qu'est-ce que vous espérez ?
Donc, oui, d'abord pour rebondir un peu sur le propos de Valérie, je ne parle plus des générations futures. Je veux dire, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui qui seront là, bien dans la fin de ce siècle, ils sont là. Ce ne sont même pas les générations futures.
C'est vrai.
Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, les difficultés, disons, un degré de plus, on y arrivera, mais au bout d'un moment, après 2050, ce sera très très difficile. Donc, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, c'est important. Alors, derrière cette idée, donc nous avons, donc je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, et notre rôle, c'est de rédiger des avis. Cet avis a été rédigé au titre de la section environnement, dans laquelle Agnès Michelot et moi-même sommes impliqués. Donc nous avons Agnès à proposer ce thème qui lui est cher. D'ailleurs,
la justice climatique.
Elle est elle-même auteur, disons, elle a mis en œuvre un ouvrage sur la justice climatique.
Alors, paru aux éditions Bruylant.
Voilà.
Oui.
Donc c'est quoi cette idée de, pour moi, la première conséquence, si on regarde un peu de loin. Le réchauffement climatique. La première conséquence, la conséquence la plus importante, c'est d'accroître les inégalités, le risque d'accroissement des inégalités. Alors on en est bien conscient quand on regarde des pays comme l'Afrique. On sent bien qu'il y a des pays qui sont plus vulnérables au réchauffement climatique que d'autres. D'ailleurs, le rapport du GIEC en fait la liste. Ce sont les régions côtières, les petites îles, l'Afrique, le Grand Nord. Hein, voilà, donc les régions particulièrement sensibles, dont certaines très peuplées. Donc, cette idée, alors on en est conscient, on est moins conscient, et ça aussi le rapport du GIEC le rappelle, que parmi les populations vulnérables par rapport au réchauffement climatique, il y a les couches pauvres des pays riches. Et donc, notre idée, ça a été d'avoir un avis sur la justice climatique, enjeux et perspectives pour la France. C'est ça qui est important, c'est-à-dire cette idée, comment fait-on en France pour qu'au moins le réchauffement climatique n'exacerbe pas les inégalités. Et c'est pas si simple. Donc c'est toute une pensée, justement, largement appuyée sur le droit. Il y a beaucoup d'aspects juridiques à mettre en œuvre. Donc cette idée, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à des mesures qu'il faudrait prendre, législatives ou bien des mesures de prévention, d'éducation. Il y a beaucoup de leviers, bien sûr. Il faut s'y prendre dès maintenant si on veut qu'en France, dans 10, 15 ans, 20 ans, eh bien le réchauffement climatique n'exacerbe pas les inégalités, ne mette pas sur le côté encore plus les couches pauvres de la population. Évidemment, on aborde dans cet aspect le problème des réfugiés climatiques. On sait qu'une des régions fragiles par rapport au réchauffement climatique, c'est tout le pourtour méditerranéen, très peuplé, avec des mouvements de population qu'on peut anticiper, qui ont été déjà mis en avant.
Alors après, est-ce que ce droit passera par un droit propre à chaque État ou un droit international affranchi du poids de la souveraineté des États ? Ça, c'est une toute autre question. On en parle dans un instant. Juste après, votre choix musical. Valérie Cabanès, vous nous avez proposé un choix très intéressant. Alors, son titre, Beauté de la nature, vous pouvez nous en dire quelques mots peut-être ?
C'est un texte de Rita Mestococho, qui est une Innu. C'est un peuple qui vit au nord du Québec, avec qui j'ai passé plusieurs mois chaque année pendant 3 ans, dans le cadre d'une thèse en anthropologie juridique, où les femmes, d'abord, se sont beaucoup réveillées dans cette communauté qui était très blessée, comme beaucoup de réserves amérindiennes. Et Rita est une poète qui a été reconnue, elle a été même préfacée par Jean-Marie Le Clésio. Elle est aujourd'hui l'une des conseillères, mais je crois qu'elle est même vice-chef maintenant de sa communauté. Et elle parle en français, donc on pourra comprendre un petit peu quel est le message qu'elle veut porter. Et elle est sur une musique composée par mon mari, Laurent Danis.
On l'écoute.
Ipé menoadse, beauté de la nature, ne me dis pas que tu veux mourir quand la terre, ta mère te nourrit. Ne me dis pas que tu veux partir quand autour de toi respire la vie. N'entends-tu pas ta sœur la rivière qui t'appelle? Elle coule comme le sang dans tes veines. N'écoutes-tu pas ton frère le vent qui te parle? Il te dit, confie-moi un peu de ta peine. Ne regardes-tu pas parfois dans le ciel ta grand-mère la lune qui éclaire ta souffrance. Lève ton regard vers le grand esprit éternel. Il t'accueille avec un souffle d'espérance. Permets à ton cœur de s'ouvrir. Tu verras que la nature t'aidera. Permets à tes rêves de s'épanouir. Tu verras que ta vie changera. Ne pedwo peni kanakamwa.
Et c'est donc le choix de Valérie Cabanès, Beauté de la nature, que nous écoutons en ce moment. C'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aux droits de la terre et à la notion d'écocide. Et nous sommes en compagnie de Valérie Cabanès, juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l'homme et auteur du livre « Un nouveau droit pour la terre » paru aux éditions du Seuil. Et à nos côtés, Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, co-auteur d'un avis rendu sur la justice climatique au Conseil économique, social et environnemental. Et donc, toute cette question a donné lieu aussi à un livre « Justice climatique » paru chez Brûlant, et Jean Jouzel en est le préfacier. Alors, de la société civile, finalement, viendra peut-être le salut. C'est la question qui se pose dans cette quête d'un droit, un droit propre aux États ou un droit international pour faire en sorte de contrer toutes ces atteintes à l'environnement. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission « Et pourtant, elle tourne » du 24 mars 2008 avec l'interview de l'autochtone Kofan Emergildo Griyuyo.
Je suis la personne qui a commencé le premier procès contre Texaco en 1993. Je continue aujourd'hui avec l'appui de plusieurs institutions. Je vais faire encore plus de pression et je crois que nous allons gagner car nous en sommes à la fin du procès. Je ne veux pas abandonner à la moitié du chemin. Il faut aller jusqu'au bout, attendre le résultat, car sinon les gens vont continuer à mourir de cancer. Il faut aussi obtenir que soit nettoyé tout l'environnement contaminé.
Valérie Cabanès, alors ce droit, finalement, il passera probablement par la société civile, par des actions menées par des victimes qui, du coup, tentent de se tourner quand même vers les tribunaux.
Oui, ça dépend effectivement qui est responsable de ces atteintes. Là, ce cas de Texaco Chevron, je pense que c'était en Équateur. Donc il faut quand même savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que ce fameux procès a eu de multiples rebondissements. Puisque effectivement, un juge équatorien a condamné Texaco Chevron à une époque à 18 milliards de dollars. 18 milliards de dollars pour 26 ans de pollution en Équateur. 30 000 victimes s'étaient portées partie civile. Pablo Fajardo, leur avocat, était encore la semaine dernière à Genève pour discuter d'un traité contraignant visant les multinationales. Pourquoi ? Parce que ce juge, son jugement a été cassé à la demande de Texaco par un juge américain qui a fait baisser cette amende de moitié, puis finalement qui a réussi à, si vous voulez, sous une influence, dire que le procès était caduque parce que Texaco Chevron, au final, n'était pas responsable puisque il avait contracté avec l'État. Donc au final, c'était l'État équatorien qui était responsable de la pollution. C'est-à-dire que 9 milliards de dollars, c'est le PIB à l'heure actuelle de l'Équateur. C'est-à-dire que la multinationale était prête à mettre à terre un État pour pouvoir se défausser. Et nous en sommes à une situation où c'est un juge canadien qui a décidé de saisir éventuellement les actifs de Texaco Chevron au Canada pour pouvoir payer cette amende après un arbitrage qui s'est passé à la Cour de justice internationale. J'explique cela parce que c'est vraiment un cas emblématique où nous n'arrivons pas dans ces situations face à des multinationales à obtenir justice pour les victimes. Pourquoi ? Parce que d'une part, effectivement, les multinationales arrivent à diluer leurs responsabilités en étant tentaculaires et en ayant des filiales un petit peu partout dans le monde, en signant des accords commerciaux avec des États, soit bilatéraux, soit comme ceux que nous sommes en train de négocier en ce moment entre, par exemple, l'Europe et le Canada ou les États-Unis, le CETA ou le TTIP, qui leur permettent de, en échange d'investissement, de réduire les réglementations environnementales et les réglementations liées aux droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas de droit contraignant pouvant effectivement permettre à des citoyens d'ester en justice directement auprès d'une justice internationale sur le cas des multinationales, ni d'ailleurs sur la complicité des États quand c'est le cas. C'est pour ça que sur le plan international, il est vraiment important aujourd'hui de continuer ce travail de mise en place d'un traité contraignant qui permette effectivement à une juridiction internationale de pouvoir juger des atteintes aux droits de l'homme par les multinationales, et puis d'avoir effectivement cette reconnaissance du crime d'écocide en tant que crime contre la paix pour les atteintes les plus graves, avec cette ouverture qui nous est proposée aujourd'hui par la procureure de la Cour pénale internationale, qui a décidé en septembre d'ouvrir déjà la définition des crimes contre l'humanité à des crimes contre l'environnement quand il y a déplacement forcé de population, accaparement de terres et destruction environnementale qui menacent les conditions d'existence des populations locales. Donc il y a quand même, on le voit, sous la pression, vous l'avez dit, de la société civile, parce qu'elle a été saisie pour des plaintes hein, par de nombreuses ONG. Il y a eu 50 ONG qui ont écrit par exemple des amicus sur le Cambodge, qui lui ont permis de trouver le courage d'élargir son interprétation du texte de la Cour pénale internationale. Et puis après, à l'échelle locale, il faudra agir aussi, on en parlera sûrement, mais il y a des possibilités, même en France aujourd'hui, de demander des comptes à l'État face à son devoir de protection des populations et de notre droit à un environnement sain.
Donc finalement, pour éviter cette situation de pot de terre contre le pot de fer, il y a tout ce travail mené par des juristes aux côtés de cette société civile. Je propose d'écouter un son, c'est un extrait du discours de Corinne Lepage lors de l'ouverture du tribunal Monsanto, c'était le 14 octobre 2016.
La fonction de ce tribunal, il faut le rappeler, n'est pas de condamner, que ce soit au pénal ou au civil Monsanto, mais de dire le droit et de répondre à des questions concernant la conformité ou non du comportement de Monsanto aux règles du droit international et également des règles de droit privé que les grandes entreprises ont décidé de se fixer à elles-mêmes. La démarche que nous avons initiée et la décision, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, que vous rendrez, quelle qu'elle soit, n'ont rien de fictif, car le droit est réel, mais l'un et l'autre sont essentiels. Ils doivent permettre à la société civile, dont le monde entier, aux hommes et aux femmes de toute cette planète, de pouvoir initier, dans leurs pays respectifs, les actions nécessaires en se fondant sur les mêmes bases juridiques et les mêmes bases scientifiques et factuelles qui seront mises en évidence ici au cours de ces deux jours. Ils devront également permettre aux États de prendre conscience de la nécessité de faire évoluer le droit international en reconnaissant l'écocide et en reconnaissant également la nécessité d'un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé pouvant permettre de juger de crimes environnementaux. Ceci va évidemment dans le sens de l'histoire et dans le sens des cris.
Corinne Lepage a dit beaucoup de choses, Valérie Cabanès. Dire le droit, reconnaître l'écocide et la nécessité de tribunal international. Tout est dit, ça s'est passé donc du 14 au 16 octobre dernier. Vous y étiez. Alors finalement, ce tribunal Monsanto, quelle valeur a-t-il? Et finalement, le verdict a donné quoi?
Alors, il n'y a pas de verdict puisque ce n'est pas un procès. On a demandé à 5 juges de renommée internationale, présidés par Françoise Tulkens, qui était la vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, d'écouter des victimes qui, justement, soit n'avaient pas la possibilité de poursuivre Monsanto, soit n'en avaient juste pas les moyens. Donc, ces juges donneront un avis sur, effectivement, est-ce qu'il y a ou pas des violations des droits de l'homme, et puis sur l'écocide, puisque c'est un crime qui n'existe pas encore. Il s'agissait aussi d'avoir leur avis sur est-ce que cela vous paraît cohérent de faire cette demande internationale. Et nous avons eu la chance d'entendre Françoise Tulkens, juste à la fin du tribunal, dire effectivement que pour elle, au vu de ce qu'elle avait entendu, il était absolument évident que c'était un crime qu'il fallait reconnaître aujourd'hui à l'échelle internationale.
Jean Jouzel, la solution ?
Sur le droit et le droit de la Terre, toute sa place dans ce futur. Je reviens aux aspects réchauffement climatique. Il y a aussi une certaine judiciarisation des actions. Par exemple, comme c'était des exemples aux États-Unis ou bien aux Pays-Bas, des collègues comme Jim Hansen, que je connais très bien, qui s'impliquent dans ces procès, qui témoignent. Donc c'est aussi en marche du côté réchauffement climatique et c'est très important que ce soit porté sur la place publique parce que, mais il n'y a pas pour le moment suffisamment de cadre juridique, et c'est ce pourquoi Valérie se bat, pour que ces actions puissent aboutir. Donc c'est ça la difficulté. Même une fois la responsabilité reconnue, soit. Donc il n'y a pas pour le moment de cadre juridique. Maintenant, par rapport à l'accord de Paris, le fait qu'il ne soit pas contraignant, ce qui est tout à fait exact, j'espère quand même que les engagements pris par les États seront honorés, mais il faut aussi savoir que ces engagements sont loin du compte en termes, disons, d'objectifs, c'est-à-dire que nous sommes dans un accord où l'objectif, même celui de 2 degrés, voire 1 degré 5, eh bien, il y a un fossé entre l'objectif et les actions qui sont entreprises pour le moment. En gros, on sait d'ores et déjà que si rien n'était fait pour relever l'ambition du, disons, des engagements des différents pays, nous aurions que 35 à 40% d'émissions en trop de gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc c'est toute la difficulté d'augmenter l'ambition, de la rendre si possible contraignante, en tout cas efficace. C'est ça qui est important. La contrainte est quelque chose, la contrainte juridique, il y a aussi la contrainte morale, il y a aussi les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place et qui savent dire aussi. Et qui pèsent de plus en plus. La notoriété d'un pays. Et puis il y a aussi ce fait que, eh bien, qu'on le veuille ou non, les pays qui prendront le leadership au niveau planétaire dans 20, 30 ans seront ceux qui auront conduit la lutte contre le réchauffement climatique et non pas ceux qui seront restés en arrière, y compris du point de vue économique, sans parler du point de vue écologique.
Donc il faudra aussi bien suivre cette COP22 qui s'ouvrira le 7 novembre et qui aura lieu jusqu'au 18 novembre à Marrakech pour voir un petit peu ce qui en sortira. On imagine que l'un et l'autre, vous irez peut-être.
Oui, moi je serai avec la délégation française, effectivement. C'est une conférence plutôt moins importante peut-être que celle de Paris, mais c'est important justement que l'accord de Paris soit conforté et réellement mis en œuvre. C'est ça la difficulté. Et l'objectif 2018 est très important. Il faut préparer la mise en place de l'accord et sa réalisation effective maintenant.
Valérie Cabanès, un petit mot. Et puis je vais vous demander à l'un et l'autre votre phrase quand même qui vous guide dans votre combat.
Oui, pour la COP22, et ça nous permettra de rebondir, nous avons deux membres qui vont, Émilie Gaillard, qui est spécialiste justement sur le droit des générations futures. Et c'est intéressant de savoir que les procès dont j'en parlais, par exemple aux États-Unis, ont été menés par des enfants, et qu'ils ont mené les procès contre l'État pour non-engagement au niveau de leurs émissions, au nom de leurs droits. En tant que génération future. C'est-à-dire qu'ils quand ils parlent de génération future, ils parlent d'eux déjà là maintenant, mais pour leur avenir. Et puis nous avons Marie Toussaint, qui est présidente de l'association Notre Affaire à Tous, qui va aussi en notre nom, de manière à faire comprendre qu'en France aujourd'hui, et ça c'est très récent, c'est le 12 octobre, nous avons la possibilité aujourd'hui de faire des actions de groupe, comme elles ont été menées aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Oui. Pour l'environnement, pour la santé, pour le préjudice écologique, et que nous allons nous saisir de cette possibilité-là pour demander à l'État peut-être de réviser sa copie par rapport à la réalité de ses engagements.
Un autre outil, en tout cas, à utiliser. Alors, votre phrase, Valérie Cabanès.
Alors, c'est une phrase de Rumi, qui est un philosophe persan, que je trouve très belle, qui dit « Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau ».
Et Jean-Joseph ?
Oui, bien, je vais redire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'en matière de justice climatique, ce ne sont pas les générations futures qui sont concernées, mais les jeunes d'aujourd'hui.
Voilà, des phrases qui sont à méditer, en tout cas qui permettent aussi de penser autrement. Merci à tous les deux d'être venus dans cette première partie d'émission. Restez avec nous parce que la suite va vous intéresser, environnement et santé. On est en plein dans ce thème-là, bien évidemment. Je rappelle vos ouvrages. Un nouveau droit pour la Terre, Valérie Cabanès, paru au Seuil. Et puis donc, Jean Jouzel, on cite Justice climatique, le livre édité chez Bruylant.
Vous êtes près de 3000 à être venu représentant 135 pays, 900 organisations. Vous êtes des médecins, des chercheurs, des responsables publics, des organismes privés, mais aussi des malades ou des proches de malades. Tous ensemble, vous mettez en commun votre expérience pour lutter contre le cancer. Chaque année, les chiffres ont été rappelés, ils sont terribles. 8 millions de personnes meurent du cancer. Plus de 14 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et nous savons d'ores et déjà qu'il y en aura 19 millions par le simple effet de la croissance démographique à l'horizon 2025. Voilà les chiffres.
« seconde partie, les échos de la Terre en partenariat avec le service Planète et Sciences du journal Le Monde, dont les contenus sont à retrouver chaque jour dans le quotidien et sur le site du journal, et puis désormais également sur le site de l'émission, avec le principe du droit de suite que nous mettons en place. Un retour, une fois par mois dans l'émission, sur un des articles ou un dossier suivi par la rédaction du journal. Et chaque semaine, vous retrouverez dans les plus, les moins de notre page web, un focus sur un article de la rédaction Planète et Sciences du Monde. Et pour cette première, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux journalistes, Sandrine Cabu et Gary Dagord. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes co-auteur avec Stéphane Foucard d'un dossier inédit publié la semaine dernière et donc qui a probablement suscité chez les lecteurs des surprises, des réactions, on imagine. Ce dossier s'intitule « Cancer, les chiffres qui inquiètent » avec des résultats inédits, parfois inattendus, on va en parler. Peut-être un rappel de ces chiffres. On entendait à l'instant François Hollande parler de ces 8 millions de personnes touchées par an dans le monde. Sandrine Cabu.
Oui, bah les cancers sont une maladie qui touche tous les pays, et d'ailleurs avant tous les pays du Sud, finalement, on a tendance à l'oublier. Nous, on s'est intéressé aux chiffres français, parce qu'on a eu accès aux données des registres et des données par classe d'âge, qui nous a permis d'aller un petit peu plus profond dans l'analyse de ces chiffres que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que les chiffres du cancer, comme vous le rappelez, c'est pas ça qui manque.
Alors justement, pourquoi cette enquête? Et on imagine que c'est une enquête qui a demandé quand même beaucoup de temps. Sandrine Cabu.
Oui, c'est une enquête qui a demandé beaucoup de temps. Il y a la UNI des compétences diverses au journal. Gary, qui pourra parler pour sa partie, mais qui a pu justement se plonger dans les chiffres et les rendre lisibles. Et c'est quand même la première étape pour travailler. Et c'est vrai que jamais ces chiffres, qui sont par ailleurs publics, ils sont disponibles sur le site des agences sanitaires, mais n'avaient été exploités de cette façon-là. Et c'est vrai que quand on voit des courbes qu'on peut cliquer et s'amuser, d'ailleurs c'est un outil avec lequel les cancérologues qu'on a consultés se sont beaucoup amusés, on voit apparaître des choses. Donc il y a eu cette partie rendre lisible. Et puis ensuite, il a fallu qu'on regarde par cancer, par tranche d'âge, toutes les évolutions entre 1980 et 2012, et qu'on essaie de regarder ce qui était inattendu. Par exemple, pour le cancer du sein, on a plutôt la notion que c'est un cancer qui diminue depuis une quinzaine d'années, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Mais finalement, quand on va un peu plus loin et qu'on regarde par tranche d'âge de 10 ans, eh bien finalement, si c'est vrai qu'il y a une diminution chez les femmes de 50 à 74 ans, on s'aperçoit, et là c'est inquiétant, que ces cancers sont en augmentation dans les tranches d'âge plus jeunes, chez les trentenaires et les quadragénaires.
Donc finalement, à la base, précisons bien, ces données, donc vous les avez recueillies auprès des agences officielles. Est-ce qu'il y avait plusieurs sources avec des données peut-être différentes, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette question des chiffres quand même, Gary Dagord.
En fait, ces données sont donc disponibles, comme vous l'avez dit, sur le site de l'Institut de veille sanitaire, qui est maintenant Santé publique France, sur des chiffres publics qui sont directement issus des 12 ou 14, il me semble, registres nationaux.
Les chiffres pour chaque cancer complet, ou alors à l'heure actuelle,
pour
on a encore
cancer.
Des manques
ouais. Alors, les chiffres concernent environ 33 localisations cancéreuses, 19 dites solides, c'est-à-dire affectant les tissus, et 13 dites liquides, à savoir des cancers du sang, donc des leucémies notamment. Et donc, ces chiffres sont issus des registres nationaux qui sont ensuite extrapolés au niveau national, puisque toutes les régions n'ont pas de registre. C'est même plutôt... Il y a des risques de fermeture sur certains registres. Pour obtenir des données au niveau national, il y a une extrapolation qui est faite à partir du taux de mortalité national. Donc, ces chiffres, c'est, on va dire, ceux qui font le plus autorité, mais... ce sont des chiffres qui sont méthodologiquement qui sont pas on n'a pas compté tous les cancers en France.
Oui.
C'est ça que je veux dire.
Et donc à partir de là, est-ce que vous-même vous êtes dit finalement je traite toutes les données, tous les cancers, vous avez préféré faire des choix, Gary Dagord?
Vu la masse de données qu'il y avait, je pense qu'il a fallu faire très rapidement des choix. Dans la première publication, notamment, celle dont on parle, on n'aborde pas forcément les données des cancers liquides, par exemple, qui sont pourtant en ligne sur le site du Monde et qu'on a rendu accessible parce qu'on avait traité les données. Il faut pas mal de temps pour proposer une analyse assez approfondie. L'épidémiologie, c'est une matière compliquée. Et donc, ça nous a pris déjà pas mal de temps de proposer une analyse sur les principaux points des principaux cancers. On a retenu les cancers qui nous paraissaient... importants, donc le sein, la thyroïde, les testicules, les poumons.
Prostate, la prostate, pancréas.
Mais bien sûr, on n'a pas tiré tous les fils de ces données.
Alors vous avez commencé à travailler, quand vous dites c'est une étude longue, il y a combien de temps? Ça se fait peut-être par étapes aussi, c'est pas facile.
Oui, c'est tout à fait par étapes, parce que comme vous, sans doute, on travaille toujours à différents rythmes. Et puis, c'est vrai que nous, on n'est pas épidémiologistes, donc quand on est face à une hausse, il faut aussi la faire interpréter par des spécialistes. Parfois, on a l'impression d'avoir une belle courbe, mais en fait, si ça correspond à une tranche d'âge, par exemple 10-19 ans, où ces cancers sont très rares, en fait, sur le plan épidémiologique, ça ne veut absolument rien dire.
Oui.
Donc, il y a vraiment des pièges grossiers à éviter. Donc, il faut vraiment prendre le temps de couper, recouper, et puis
se rapprocher des spécialistes, voilà, des oncologues
En plus, il y a des super spécialistes. Il y a des oncologues qui traitent un peu tous les cancers, et puis vous avez des gens très spécialisés sur les cancers du cerveau, sur les cancers du pancréas, etc., et qui n'ont pas le même niveau de connaissance que le cancérologue lambda. Donc,
oui. Alors, je vous propose d'écouter un premier document sonore à propos du cancer de la thyroïde. Un document qui n'est pas très vieux, qui remonte au 8 septembre 2016. C'était la chronique de Dominique Dupagne sur France Inter.
La bombe dont je vais vous parler, qui est tombée cet été, concerne le cancer de la thyroïde, un certain type de cancer qu'on appelle papillaire. C'est publié dans le prestigieux New England Journal of Medicine par le CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer. Cet organisme international a suivi l'évolution des cancers de la thyroïde au sein de 12 pays développés. Et il démontre que la majorité des ablations de la thyroïde motivées par la découverte d'un petit nodule cancéreux étaient en fait inutiles. En pratique, l'étude du CIRC démontre aussi que l'épidémie de cancer de la thyroïde en France et en Corée est liée à la pratique d'un dépistage sauvage et que cette épidémie est absente dans les pays où ce dépistage n'est pas pratiqué. Mais surtout, une autre preuve a été apportée par les Japonais. Ils ont décidé de suivre, sans les traiter pendant 15 ans, 1200 patients porteurs d'un petit nodule cancéreux qu'on avait dépisté. Eh bien, seuls 40 d'entre eux, 3%, ont vu leur maladie évoluer sans qu'aucun n'en soit décédé. En France, les 1200 patients auraient quasiment tous été opérés.
Sandrine Cabu, c'est ce qu'on retrouve dans votre article du Monde, un thyroïde, le poids du surdiagnostic. Aujourd'hui, sur ce cas précis du cancer de la thyroïde, c'est l'état des lieux accepté par tous.
Ah oui, tout à fait. Donc on l'a vu, ça existe dans différents pays.
Oui.
En France, les courbes sont très symptomatiques de ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les cancérologues qui suivent ces cancers-là sont beaucoup moins interventionnistes. Quand ils voient des petits nodules, même si on pourrait penser que c'est des cancers, ils prônent plutôt l'abstention avec bien sûr une surveillance. Mais c'est vrai que ça fait quand même des dizaines de milliers de personnes qui ont une ablation de la thyroïde. On pourrait dire
ce qui n'est pas bénin d'ailleurs.
C'est une intervention chirurgicale, donc bon, oui. Si on peut l'éviter, c'est toujours mieux.
Mais après, puis, c'est le déséquilibre.
Après, il faut prendre un traitement hormonal à vie. Alors,
c'est ça.
Bon, voilà, c'est quand même un peu contraignant.
Alors, autre surprise dans votre enquête à tous les trois, donc je rappelle avec Gary Dagorn et puis Stéphane Foucard, donc le cancer du pancréas. Donc, une augmentation surprenante et en même temps, vous pointez du doigt le fait que finalement, il y aurait presque des localisations géographiques ou des endroits, comme on parle du centre de la France, pour lesquels on voit que là, c'est quand même en progression très importante.
En fait, là, il y a deux sources de données. Donc, les données qu'on a exploitées de l'Institut de veille sanitaire, qui montrent qu'à partir de 70 ans, il y a à peu près un triplement depuis une trentaine d'années. Et puis, chez les femmes, ce cancer, qui est jusqu'ici considéré comme rare, et heureusement, parce que c'est un cancer qu'on soigne vraiment pas bien, et c'est un cancer donc qu'on décèle mal, souvent à un stade où il est inopérable, et donc du coup, son pronostic n'est pas bon. Et donc, ces données-là montrent que chez les femmes, même plus jeunes, il augmente de façon inquiétante. Alors, on s'est tourné vers l'Institut de veille sanitaire, vers les gens qui suivent ces cancers, et pour l'instant, ils sont un peu perplexes. Ils se sont demandé si cette augmentation si impressionnante n'était pas due en partie aussi à un problème de diagnostic. Peut-être qu'il y a 30 ans, les personnes âgées, on allait moins leur faire des scanners, etc. Oui. Mais en regardant les données de mortalité, ils se sont aperçus que l'augmentation, elle est réelle et indiscutable. Maintenant, de quoi elle vient? Alors là, ils sont un petit peu embarrassés parce que les deux principaux facteurs de risque qu'on connaît de ces cancers, le tabac et l'obésité, bon, peut-être ils ont augmenté, mais en tout cas pas dans des proportions qui pourraient expliquer cette augmentation. Donc ils cherchent, est-ce que ce sont des facteurs d'environnement notamment, ou des facteurs professionnels? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et par rapport au deuxième point que vous soulevez,
oui,
le côté géographique,
parce que c'est un des spécialistes que vous avez interviewé et qui précise que l'incidence varie du simple au double selon les départements, ceux du centre de la France étant les plus touchés.
Voilà, alors il s'agit d'un chirurgien qui lui a en fait exploité une autre base de données qui sont les données hospitalières, en fait. Mmh. Parce que chaque personne qui est hospitalisée, on a une fiche avec son diagnostic, etc. Et lui a analysé toutes ces données qu'on appelle PMSI sur toute la France et il a remarqué qu'effectivement, ça va du simple au double. C'est vraiment un mystère pour l'instant sur lequel se pensent les chercheurs. Et d'ailleurs, ils ont des crédits. Enfin, voilà,
pour travailler là-dessus. On parlait des paramètres qui expliquent certains résultats. Écoutons ce témoignage, celui d'une jeune femme, Aurélie, donnée le 7 février 2015 sur France Inter. Et donc, elle a été touchée par un cancer du sein à l'âge de 34 ans.
Bah, cet été, j'ai senti une boule, en fait, quand j'ai mis mon maillot de bain. Je me suis doutée que c'était pas net. Donc après, j'ai été chez la gynéco et qui m'a confirmé que c'était pas net. Ensuite, il y a toute une batterie d'examens. Et à chaque fois, il me disait, mais non, mais à votre âge, non, il n'y a pas de raison que vous ayez le cancer du sein. Mais, enfin, et dans ma famille, personne n'en avait eu. Donc, ils m'ont, enfin, vraiment, c'était pas normal. Ma mère, tout de suite, a réagi en disant, mais c'est pas possible. C'est pas toi qui devrais avoir ça, c'est moi qui devrais l'avoir. Donc, il y a quelque chose qui est renversé, en fait, on a l'impression. J'ai eu l'impression de prendre un grand coup de vieux, en fait, hein, et de me retrouver face à des questionnements auxquels, normalement, je ne devrais pas avoir à faire face, en me disant bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et qu'est-ce que je fais là, et pourquoi j'ai perdu autant de temps à me poser des questions futiles, et pourquoi je n'ai pas eu d'enfant, et est-ce que je vais pouvoir en avoir. Enfin, ça met plein, ça te met face à plein de questions auxquelles tu ne penses même pas avant, quoi. Avant, je sortais, je buvais des coups, et puis je bossais, quoi. Et c'est vrai que ce qui est douloureux, c'est de voir que les autres peuvent continuer cette vie-là et que moi, j'ai ma vie entre parenthèses pendant 6 mois là jusqu'à présent, mais peut-être plus, je ne sais pas. Et tu ne sais pas pourquoi ça te tombe dessus. Et le cancer que j'ai, c'est un cancer que certains scientifiques qualifient d'environnemental, en fait. Donc à cause des pesticides, à cause de tous les conservateurs que tu peux trouver dans les cosmétiques et dans l'alimentation. C'est pas quelque chose qui est inscrit en moi.
Sandrine Cabu, la question des facteurs environnementaux, vous en parlez aussi dans l'article.
Rappelons quand même qu'il y a des facteurs de cancer qui sont bien connus, dus à des comportements individuels, comme le tabac, l'alcool. Bon, ça, finalement, je dirais que c'est assez facile, on commence à bien connaître, etc. Pour les facteurs environnementaux, en fait, ils peuvent toucher tout le monde. Alors, on ne sait pas exactement quel niveau de risque ça augmente, mais probablement que ça joue. Et en fait, c'est plus difficile à étudier. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces questions-là disent qu'il faut penser l'épidémiologie autrement. Oui. Il faut de nouveaux outils parce que sinon, on ne va pas arriver à dire le bisphénol ou les perturbateurs endocriniens sont un même facteur de risque que le tabac. Il faut vraiment changer de mentalité et de façon de travailler pour pouvoir mieux les appréhender.
Et c'est ce que vous faites tous au Monde, en tout cas, chaque jour, à découvrir en détail toutes ces données sur le site lemonde.fr, les décodeurs. Merci Sandrine Cabu, merci Gary Dagorn. Et on remercie aussi, même s'il n'est pas là, Stéphane Foucard, on lui doit aussi cette enquête. Donc vous êtes journaliste au Monde, aux pages Planète et Science, et les décodeurs pour Gary Dagorn. En partenariat donc avec De Cause à Effet dorénavant. Informations et liens retrouvés sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique De Cause à Effet. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, ne vous en privez pas, et nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet. La semaine prochaine, le sol et ses secrets sera le thème du jour avec Christian Feller, directeur de recherche émérite de l'Institut de recherche pour le développement, et avec Ghislain de Marcilly, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Et nous aurons aussi en partie les échos de la Terre, Yvon Lemao, pour revenir sur le colloque de l'Académie des sciences, développement durable, changement climatique et éducation. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, les incontournables, Catherine Donnet, Anaïs Morales, épaulée par Caroline Chausset, la documentation sonore de Radio France, Anne Gouzon de la documentation de Radio France, et dont vous pouvez retrouver la revue de Web Environnement sur le site de l'émission. Et je n'oublie pas Estelle Ferrari, Christine Anzano et Corinne. À la réalisation, toujours avec bonheur, Alexandra Malka. À la technique, aujourd'hui, Bernard Laniel. Et puis, dans un instant, à 17h, suite de vos programmes sur France Culture, avec Rue des Écoles.